une histoire particulière. D'après vous, qu'ont en commun Agatha Christie, James Ellroy, Michael Connelly, Raymond Chandler ou encore Hervé Lecor? Sans doute, me direz-vous, c'est facile, ils sont tous auteurs de romans policiers. Oui, mais vous est-il déjà arrivé de vous poser la question? Et si l'auteur s'était trompé? Et si les assassins n'étaient pas ceux que l'on pensait? Et s'il existait de nouvelles pistes? Et si on rouvrait les enquêtes? Et si? Et si? Et si? Eh bien, allons-y, plongeons dans les secrets des criminels impunis, cachés entre les pages des livres.
Eh bien, je considère mon enquête comme terminée. Le meurtrier est l'un de vous trois et je sais lequel ou laquelle. Et vous, savez-vous qui a tué ?
Intercripol, l'international de la critique policière.
Vous avez eu les mêmes indices que moi pour parvenir à la solution.
Par Federico Polo Devoto et François Test.
Vous avez vu les mêmes images, vous avez entendu les mêmes paroles.
Premier épisode, enquête entre les lignes.
Au cas où vous hésiteriez encore, nous allons passer dans mon bureau où j'ai convoqué deux experts qui nous donneront leur avis. Vous ne bougez pas. On aura encore besoin de vous.
Intercripol, c'est l'équivalent pour la fiction d'Interpol dans le monde réel. Donc, de la même façon que Interpol, pour mener ses enquêtes, essaie de s'appuyer sur des enquêteurs et enquêtrices de différents pays, de différentes spécialités, police scientifique, police judiciaire, enfin toutes les spécialités qui permettent de mener l'enquête, et éventuellement des experts également techniques, balistiques, etc. Intercripol essaie de résoudre les affaires bâclées de la fiction, donc soit les affaires non résolues, les meurtres qui restent sans réponse, ou les affaires mal résolues, c'est-à-dire où le détective en charge de l'enquête à l'intérieur du roman ou du film a mal mené son enquête, de toute évidence. On essaie de reprendre ces dossiers, ces cold cases, et puis de leur apporter soit une réponse définitive, soit éventuellement un dossier au moins qui explore les différentes possibilités.
Alain Bauer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous vous intéressez aux enquêtes du réel. Qu'est-ce que vous inspire la critique policière, c'est-à-dire la traque des criminels de fiction ?
Alors d'abord, quand on enseigne la criminologie, on donne énormément d'exemples issus des polars. Le polar est un instrument exceptionnel de transmission des savoirs, des méthodes, du savoir-faire des criminels, comme des enquêteurs, des policiers. Moi, j'ai appris, par exemple, le droit pénal américain en regardant des séries télévisées américaines, à condition qu'elles soient très bien faites.
Est-ce qu'en tant qu'auteur et en tant que lecteur, vous assumez qu'il peut y avoir d'autres vérités que celles que l'auteur propose ?
Alors d'abord, il n'y a pas de vérité dans la fiction. C'est la fiction. Il y a un enchaînement qui vous amène à un dénouement que vous avez inventé, mais il n'y a aucune vérité. Par contre, il y a des romans où il y a des options alternatives. On vous dit, alors, ça pourrait être l'option A, l'option B, l'option... Pendant un moment, Raymond Souplex, par exemple, vous proposait à la télévision de choisir la fin. Et il y avait une reconstitution de fin alternative avec il, elle, lui, un autre, comme criminel, auteur, coupable, reconnu dans le processus. Ça arrive, c'est assez rare. Et en général, tout est fait dans l'explication qui va avec pour bloquer les autres options.
Bon Dieu, mais c'est bien sûr.
Caroline Juliot, vous êtes maître de conférence en littérature française du 19e et du 20e siècle à l'Université du Mans. Et vous êtes aussi présidente et grande enquêtrice de l'Intercripol, l'international de la critique policière. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisation ?
On est organisé en brigade, donc il y a des spécialistes de littérature française, des spécialistes de littérature anglo-saxonne, espagnole, slave, etc. aussi des spécialistes d'études visuelles, d'études télévisuelles ou cinématographiques, des spécialistes de sciences humaines, que ce soit de droit, d'histoire, d'économie. L'exemple que je peux vous donner, c'est « Ils étaient 10 » d'Agatha Christie, donc enquête qui avait été menée dans le monde d'avant où l'ouvrage s'appelait encore « Dix petits nègres ». On travaillait sur ce cas, non seulement des spécialistes de littérature anglaise, mais aussi des spécialistes du Moyen-Âge, des spécialistes d'histoire. Donc l'idée, c'est vraiment que parfois, c'est en décalant ses lunettes méthodologiques et son regard qu'on peut trouver quelque chose, un peu à la manière du détective de roman policier, qui est censé, lui, ne pas être un professionnel, être un amateur, et qui parfois va repérer ce que ceux qui sont censés être les spécialistes ne repèrent pas.
Qu'est-ce que c'est la critique policière ? C'est une manière de lire un texte policier, mais en ne faisant pas confiance à l'auteur de ce texte policier. C'est d'essayer de s'approprier un texte qui d'abord nous est imposé par l'auteur et qu'on se réapproprie en le relisant, en y apportant ses propres interprétations, en développant sa propre imagination, essayer de créer une espèce de dialogue, hein. Alors en décalé bien évidemment, mais un dialogue avec un auteur dans un esprit ludique. C'est un jeu sérieux d'une certaine manière.
Marcus Malt, vous êtes auteur de romans policiers, entre autres. En tant qu'auteur, est-ce que vous envisagez que votre intrigue ou que certains de vos personnages vous échappent ?
Alors en fait, moi je travaille sans plan, c'est-à-dire sans filet d'une certaine manière. En gros, j'ai aucune idée de l'histoire que je vais raconter au moment où je commence l'écriture. D'une certaine façon, je découvre un peu l'intrigue au fil de l'écriture. Finalement, je suis quasiment dans la même position que le lecteur. J'ai l'impression que l'intrigue, en réalité, existe déjà, qu'elle préexiste, et que mon rôle, c'est de la dévoiler, de la mettre au jour. Comme si j'étais finalement un peu l'intermédiaire entre l'histoire et le lecteur. Et en ce sens, on peut dire que l'intrigue, oui, peut m'échapper, en tout cas, elle essaye de m'échapper, et moi, j'essaye de l'attraper.
Pierre Bayard, vous êtes président d'honneur de l'Intercripol, l'International de la critique policière. Parmi les enquêtes emblématiques, vous avez notamment repris l'affaire d'Oedipe, dans Oedipe n'est pas coupable. En reprenant cette affaire, qu'est-ce que vous avez trouvé ?
La naissance même de la critique policière est partie de cette pièce de Sophocle, et plus exactement d'une remarque de Voltaire, qui en 1719... crée sa propre version d'Oedipe. Et dans des lettres à un ami qui accompagne cette version, il ironise sur la version de Sophocle. Alors je rappelle de quoi il s'agit. La ville de Thèbes est ravagée par une peste. Et le roi, Oedipe, envoie donc son beau-frère Créon à Delphes pour savoir pour quelle raison il y a ce fléau. Et la réponse d'Apollon, c'est qu'il faut retrouver le ou les coupables de la mort de l'ancien roi, Laios, qui a été agressé à Asclépiodos, à 2 heures d'Athènes. Et donc Oedipe décide de mener l'enquête, mais il en arrive peu à peu à la conclusion que c'est lui qui aurait tué l'ancien roi. Et comme vous le savez, fou de désespoir, il se crève les yeux, pendant que la reine Jocaste, dont il découvre qu'elle a été à la fois sa mère et son épouse, se suicide. Le meurtre de Laios a eu un témoin. Et ce témoin n'a jamais varié dans ses déclarations, dit Voltaire. Laios a été tué par plusieurs personnes, plusieurs bandits. Mais Oedipe était tout seul. Alors remarque Voltaire, il y a quand même un problème. Il a vraiment une idée de ce que pourrait être la critique policière. Et moi, quand j'ai lu ce texte de Voltaire, j'étais à la fois enthousiaste et un peu déçu. Enthousiaste devant cette idée qu'il fallait prendre au sérieux les affaires criminelles dans les livres et ne pas se laisser conter n'importe quoi, mais dans le même temps un peu déçu, parce que je me disais, c'est bien beau de dire « c'est vraisemblablement pas Œdipe, puisqu'il y a cette contradiction majeure ». Mais alors, qui a fait le coup ? Et vraiment, dans le même temps, j'ai eu ce double sentiment contradictoire, et je me suis dit « oui, il est temps de reprendre les affaires criminelles dans les livres, mais cette fois en les ficelant bien, les enquêtes, et en arrêtant les véritables assassins ». Ce que ne fait pas Voltaire, qui laisse quand même le ou la responsable impuni.
Sans tout dévoiler de ce que vous avez trouvé, est-ce que vous pouvez au moins nous donner quelques éléments sur Œdipe, des pistes que vous avez suivies ?
Alors, il y a plusieurs invraisemblances. Il y a celle notée par Voltaire, d'abord, invraisemblance numéro 1. On peut remarquer que Voltaire a encore plus raison qu'il le croit. En effet, Voltaire, comme beaucoup de gens à son époque, ne lit pas le grec ancien. Donc il se fie à des traductions. S'il lisait le grec ancien, il pourrait constater que lorsque Apollon demande que l'enquête soit rouverte sur la mort de l'ancien roi de Thèbes, Laios, afin de mettre fin à la peste qui ravage la ville, Apollon est formel. Il demande que l'on trouve et que l'on arrête les assassins. Il emploie le pluriel, comme le témoin. Donc Voltaire a raison, plus encore qu'il le croit. Alors ça, c'est l'invraisemblance numéro 1. Il y en a d'autres. Et en particulier, ce que j'appellerais l'invraisemblance du nombre de personnes dans l'escorte de Laios. On a en effet deux récits de cette agression qui a coûté la vie à Laios. Un récit qui est formulé par Jocaste, la femme de l'ancien roi, et ce récit, c'est celui qu'elle tient du témoin. Et dans ce récit, il y a 5 personnes dans l'escorte. Et quand Œdipe raconte lui-même ce qui lui est arrivé, parce qu'à un moment il s'imagine avoir tué son père, il y a 3 personnes dans l'escorte. Alors, 5 et 3, c'est pas la même chose. Alors les hellénistes ont essayé de combler l'invraisemblance en disant « Ah, il devait y avoir 2 esclaves en plus ». Pourquoi pas, si on tient absolument à ce que les 2 récits coïncident. Mais on peut aussi considérer qu'il n'est pas indispensable que ces 2 récits coïncident et en arriver à la conclusion qui, je crois, aujourd'hui gagne du terrain chez les hellénistes ou plus généralement chez les gens sérieux, qui est l'hypothèse de la double altercation. Au même endroit, ce qu'on appelle Schistéodos en Grèce, 2 heures d'Athènes, eh bien, Laios a été tué par des brigands et Œdipe a croisé un voyageur, et l'a tué.
À un autre moment.
À un autre moment, le même jour ou un autre jour, exactement au même endroit ou à peu près. C'est la théorie de la double altercation qui a le mérite de combler les invraisemblances.
Caroline Julio, au terme des différentes enquêtes menées par plusieurs membres de l'Intercripole, vous êtes arrivée à la conclusion que Œdipe était innocent. Ça signifie quand même que c'est un grand coup porté à la psychanalyse et à tout un pan de notre civilisation, de notre histoire.
Alors c'est sûr, il y a une dimension anecdotique au fait de savoir qui est le coupable ou pas, mais surtout il y a des vraies conséquences théoriques. Donc effectivement, les conclusions sur la psychanalyse sont énormes, puisque les crimes fondateurs que Freud a érigé en source de névrose essentielle, fondatrice pour chaque individu, c'est-à-dire l'envie, la rivalité avec le père et le sentiment d'amour sexualisé pour la mère, ne tient plus.
Et c'est pour ça que je vous suis très reconnaissant de m'aider à lever la conspiration du silence qui a entouré ce livre, en particulier chez mes collègues psychanalystes, qui sont évidemment pas désireux que je me mette à scier la branche sur laquelle ils sont assises.
Ils font ça à la fois d'une manière très, très sérieuse, mais en même temps, ils mettent en avant le côté ludique de la littérature. Ils s'amusent, je pense qu'ils s'amusent, et ça montre que la littérature, c'est aussi un jeu, quoi. C'est aussi quelque chose qui peut être amusant, qui peut être, on le savait, notamment par tous les jeux olympiens ou ce genre de choses, mais voilà, il propose une relecture des textes qui peut être très enrichissante, je trouve. Et puis, ils peuvent révéler des aspects d'une œuvre qui nous auraient totalement échappé, quoi.
Pierre Bayard, en tant qu'expert de la critique policière, quels sont les conseils pratiques, méthodologiques qu'on peut donner à quelqu'un qui souhaite s'y adonner ?
Les mêmes que dans la vie réelle, ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous raconte. Faites-vous une opinion par vous-même, menez l'enquête avec vos propres cellules grises, pour reprendre l'expression d'Hercule Poirot, et faites attention à ce que vous raconte l'auteur, mais aussi les personnages. Je voudrais ici indiquer qu'il y a toute une série de livres dont les seuls témoignages sont portés par des personnages, y compris d'ailleurs par des personnages dont on nous dit à la fin que ce sont des tueurs ou des menteurs. Eh bien, ce ne sont jamais que des avis des personnages auxquels nous avons affaire. Et donc là déjà, il y a une brèche pour l'interprétation et la reprise d'enquête.
Marcus Malte, dans votre dernier ouvrage « Qui se souviendra de Philly Joe », on a notamment affaire à vraiment une sorte de jeu de poupée gigogne où le lecteur peut suivre différentes pistes. Est-ce que vous pourriez accepter l'idée qu'il y ait plusieurs solutions, par exemple, différentes des vôtres, dans le cadre de votre texte ?
Oui, je crois, oui, tout à fait. Effectivement, dans mon dernier roman, « Qui se souviendra de Philly Joe », c'est encore plus valable parce que le lecteur peut jamais être certain que ce qu'il lit est la vérité, que ce soit de la part de l'auteur ou des personnages eux-mêmes qui s'expriment. Il y a ce leitmotiv qui revient dans le roman qui est « que croire, qui croire ». Dans la première page du roman, il est écrit que le roman a été traduit de l'américain par un certain Edward Demps. Et donc évidemment c'est faux. Mais ce qui est drôle, et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que moi j'avais écrit ça comme une espèce de blague en étant persuadé que personne allait y croire, mais je me suis rendu compte finalement que beaucoup de gens y ont cru, y compris des proches. Et donc ça prouve d'une certaine manière qu'on a tendance à croire tout ce qui est imprimé finalement.
Il y a des narrateurs qui mentent, qui sont manipulateurs volontairement. On peut penser en particulier à Humbert Humbert dans Lolita de Nabokov. C'est quelqu'un qui manie très bien la langue, dont la langue est manipulatrice. Donc c'est quelqu'un qui nous ment. Et ça, il y en a plein dans la littérature. Par exemple, le récit de Kaiser Soze dans Usual Suspects, c'est typiquement une narration de narrateur non fiable. Narrateur non fiable, on a le narrateur manipulateur et le narrateur défaillant, qui n'est pas de mauvaise volonté, dont le but n'est pas de nous mentir, mais qui, par sa faiblesse, donc parce qu'il est pris de folie, trop ému, alors ça, il y en a partout dans la littérature fantastique, ou parce qu'il raconte des faits dont il n'a pas été le témoin direct, parce qu'il fait trop confiance à d'autres témoins non fiables, lui aussi, son discours peut être mis en question. Évidemment, la question est différente quand il s'agit de ce qu'on appelle une narration, à tort d'ailleurs, omnisciente, mais qu'on pourrait appeler de façon plus technique une narration en focalisation zéro. C'est-à-dire que le narrateur n'est pas censé être un personnage, l'histoire est racontée à la troisième personne, comme si elle était décrite de façon totalement objective. Or, c'est jamais le cas. Mais c'est plus difficile de mettre en question des faits qui ne sont pas racontés par un personnage dont on pourrait douter de la fiabilité.
Le travail de la critique policière, c'est aussi de décrypter ce que l'on appelle les biais cognitifs. Nous avons tendance, dans notre appréhension du réel, à rechercher les éléments qui vont dans le même sens que l'idée que nous avons. J'en fais la démonstration dans un livre qui va sortir en octobre, qui s'appelle « Hitchcock s'est trompé », où je reprends « Fenêtre sur cour » d'Alfred Hitchcock. Je montre comment les deux enquêtrices amateurs, joués par James Stewart et Grace Kelly, Jeff et Lisa, sont absolument persuadés que le voisin d'en face a tué sa femme. Et contre toute vraisemblance, tous les éléments de la réalité sont filtrés à travers un biais de confirmation. Ce qui veut dire que dans le même temps, ils écartent une quantité d'éléments qui vont en sens contraire. Et nous faisons cela en permanence. Et pour moi, c'est un enjeu de la critique policière, au-delà de sa dimension ludique, que de nous permettre de réfléchir sur ces biais cognitifs, sur l'inconscient, sur les racines du complotisme. Ce que je montre à propos des deux héros de Fenêtre sur cour, c'est qu'ils commencent à construire un délire complotiste parce qu'ils sélectionnent dans la réalité tout ce qui va dans leur sens.
Mais enfin, qu'est-ce que vous cherchez ? Je veux découvrir ce qui s'est passé avec la femme de cet individu, c'est tout. Est-ce que ça doit me faire prendre pour un maniaque?
Qu'est-ce qui vous fait croire que quelque chose s'est passé avec
De nombreux indices, c'est une invalide, elle demande des soins constants. Et ni son mari, ni personne d'autre n'est venu la voir aujourd'hui. Pourquoi?
Elle est peut-être morte, qui sait?
Mais où est le docteur? Où est le cercueil?
Elle a pu prendre un soporifique. Il est là maintenant. Il n'y a rien à voir.
Caroline Julio, donc, l'Intercripol, la critique policière, ce sont des méthodes très précises, beaucoup de rigueur. Le texte, seulement le texte, rien d'autre que le texte. Est-ce qu'à partir de là, il existe une seule vérité ou il existe une multiplicité de scénarios possibles?
Alors, vous avez raison, on a l'intérêt et disons la fécondité de cette méthode par rapport à d'autres approches qui sont très intéressantes, mais qui relèvent plutôt de la recréation du texte, la réécriture, où vraiment on change des éléments. Dans la critique policière, on s'interdit, il faut que toutes les hypothèses qu'on propose soient rigoureusement compatibles avec le texte tel qu'il existe. Sauf qu'on s'autorise une marge d'exploration à travers ce qu'on appelle, là aussi en critique, les textes possibles. C'est-à-dire que le texte tel qu'il existe n'est que l'enregistrement d'une partie du monde qui est créé. Hors des cases, dans les blancs du texte, on va pouvoir recréer l'univers et l'emploi du temps des personnages en particulier, qu'on voudra. Il y a un exemple amusant de ça, c'est Jean-Philippe Mézières, donc le dessinateur de bande dessinée, qui en avait un peu assez qu'on lui demande quand ses héros, donc Valériane et Laureline, allaient enfin s'embrasser. Et il dit, mais ils passent leur temps à s'embrasser, mais c'est hors des cases. Donc c'est ce hors-texte aussi qu'on peut essayer d'explorer.
Pierre Bayard, une autre de vos enquêtes emblématiques concerne Le chien des Baskerville, un roman de Arthur Conan Doyle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enquête?
Alors Sherlock Holmes et son ami Watson enquêtent à propos d'un cadavre, le cadavre d'un certain Baskerville, qui a été retrouvé alors qu'à proximité, on a identifié les traces d'un chien gigantesque. Et Holmes et Watson, on arrive à la conclusion que c'est ce chien, peut-être fantastique, peut-être réel, qui aurait provoqué la mort.
Ainsi, à travers Sir Hugo, un mauvais sort s'abattit sur les Baskerville, sous la forme d'un chien surgi de l'enfer, pour attirer le malheur sur toute la famille des Baskerville. Aussi, prenez garde, ne vous aventurez pas sur la lande la nuit, quand le diable se déchaîne. Sinon, vous rencontrerez sûrement le chien de l'enfer, le chien des Baskerville. Ainsi finit la légende.
Alors, c'est une des plus célèbres enquêtes de Sherlock Holmes. Et j'ai émis des doutes sur la solution trouvée par Sherlock Holmes. Je vais prendre deux exemples. D'abord, le récit est fait par le docteur Watson, qui est, contrairement à ce qu'on peut trouver dans d'autres romans policiers, un narrateur totalement honnête, qui n'est pas fou, etc. On peut quand même faire une remarque, c'est que Watson a la réputation dans les livres de Sherlock Holmes de se tromper tout le temps. Et d'ailleurs, il y a un passage tout à fait significatif dans Le chien des Baskerville, où Holmes lui dit « Mon cher Watson, vous m'aidez beaucoup, parce que vous m'indiquez tout le temps les voies fausses, donc du coup, moi, je peux trouver la vraie. » Pour un narrateur fiable, c'est quand même un problème, hein. Deuxièmement, quand on reprend les différentes scènes du livre, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Alors, j'attire particulièrement votre attention sur une scène, qui est la scène majeure, qui est la scène du crime. L'assassin aurait exécuté sa victime au moyen de ce qu'on pourrait appeler un meurtre à la crise cardiaque. C'est-à-dire, il aurait provoqué chez sa victime Baskerville, le sachant faible du point de vue cardiovasculaire, une crise cardiaque, en lâchant sur lui un chien gigantesque couvert de phosphore. Lorsqu'il se rend sur la scène de crime, Holmes remarque qu'il y a en effet des traces laissées par un chien gigantesque, mais ces traces s'arrêtent à quelques mètres du cadavre, ce qui est surprenant. Alors Holmes émet l'hypothèse que le chien s'est arrêté parce que les chiens ne mangent pas de cadavres. Ce qui, vous le remarquerez, est faux, parce que les chiens mangent des cadavres, j'ai donné des exemples aussi bien dans la réalité qu'en littérature. Mais après tout, ce chien a le droit, au nom de ses préférences alimentaires, de ne pas manger de cadavres, et ses préférences doivent être respectées. Imaginez un peu la scène. Tout cela se joue sur à peu près une vingtaine de mètres. Il faut imaginer que, pendant les quelques secondes que dure la course du chien vers Baskerville, le chien commence à courir. Baskerville a une crise cardiaque. Il faut supposer que c'est la crise cardiaque la plus rapide de la cardiologie. Car pendant les quelques secondes que dure la course, le chien identifie, il fait un diagnostic, identifie que c'est une crise cardiaque et se dit « Oh là là, moi je vais pas manger de cadavre, je m'arrête ». Tout ça est complètement invraisemblable. Si ce chien s'est arrêté à quelques mètres du cadavre, il y a une explication très simple, qui n'est pas du tout le fait qu'il a fait un diagnostic cardiologique. Et quand on a cette explication en main, il faut faire repartir l'enquête dans une toute autre direction, qui nous mène à un tout autre coupable. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre sur le chien des Baskerville.
Est-ce que toutes les œuvres peuvent se prêter à la critique policière ?
Alors, c'est le pari d'Intercripol. C'est vraiment de prendre le format du roman policier à énigme, c'est-à-dire l'enquête qui va mener à la révélation d'un suspect ou de la culpabilité d'un personnage, prendre ce format-là, ce paradigme-là, non plus comme un genre littéraire, mais comme vraiment une méthode d'approche. Et donc une méthode qui permet d'interroger n'importe quel texte, a priori. Évidemment, le roman policier lui-même, qui nous présente un meurtre avec plusieurs suspects, avec plusieurs déjà pistes ébauchées d'enquête, s'y prête particulièrement bien. Mais partout où il peut y avoir des morts un peu suspectes, même si elles ne sont pas présentées comme des assassinats, alors on peut penser par exemple à la mort d'Emma Bovary, qui a donné lieu dans notre organisation à deux contre-enquêtes. On peut penser aux lettres persanes de Montesquieu. Qu'est-ce qui se passe dans le sérail d'Ouzbek pendant qu'il voyage en Europe? Tous les textes peuvent s'y prêter.
Marcus Malt, en tant que lecteur, est-ce que vous-même, de manière consciente ou pas, ça vous arrive de faire de la critique policière, de lire un roman policier et puis de relever des incohérences, d'établir des scénarios alternatifs?
Alors, non, franchement, en règle générale, je fais pas ça. C'est-à-dire, je suis plutôt bon public. Je pense que je suis assez facile à mener en bateau et à berner. Si on décortique vraiment, il y a toujours un moment où un élément est invraisemblable. C'est là où intervient tout le talent de l'auteur, justement, qui va réussir, d'une certaine manière, à nous faire gober le truc sans qu'on s'en rende compte, quoi. Ça tient un peu de l'art des illusionnistes, quoi. J'agite ma main droite d'un côté pour attirer l'attention et pas qu'on regarde ce qui se passe dans la main gauche, quoi. Il faut pas oublier que les auteurs sont avant tout des monteurs, quoi. Les auteurs de romans, en tout cas, c'est des menteurs comme les escrocs, comme les criminels. Et donc, ça peut être intéressant que les enquêteurs de l'Intercripol essayent de nous traquer.
C'était Intercripol, l'international de la critique policière. Premier épisode, enquête entre les lignes. Avec Nicolas Barrett, enquêteur de l'Intercripol, Alain Bauer, criminologue, Pierre Bayard, président d'honneur de l'Intercripol, Caroline Juliot, présidente de l'Intercripol, et Marcus Malt, écrivain. Merci à la Bibliothèque des littératures policières de Paris et au Musée de la Préfecture de Police. Prise de son, Valérie Lavalard, un documentaire de Federico Polo Devoto, réalisé par François Teste.